gratis en location à partir de 177 $ par semaine, sans aucun comptant. Et c'est disponible dans n'importe quelle concession Subaru. Mais rendu là, là aussi, on peut trouver mieux. Option Subaru, exactement pareil comme ailleurs, mais mieux.
Ta meilleure option, c'est Option Subaru.
Boulevard. Boulevard.
T'as-tu informé?
102.1.
Toute la semaine. Partout. La Beauce. Portneuf. Bellechasse. Saint-Og. La Côte-de-Beaupré. Québec.
Et je salue les gens de Lévis. Je n'ai jamais oublié les gens de Lévis.
Ouais. Effectivement. Boulevard 102.1, maintenant 100% talk.
Une propriété Leclerc Communication.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
On passe la soirée en compagnie de Mathieu Thomassin. Matt Thomassin, l'expert en automobile. C'est le gars de Questions Auto ou encore Car Question. Mathieu Thomassin, salut.
Hey, comment ça va?
Ça va bien quand je parle du merveilleux monde de l'automobile puis des camions. Moi, j'adore ça. Commençons donc avec notre premier sujet ce soir. Les vols de véhicules à la grandeur du Canada, à la grandeur du Québec, qui seraient en baisse, contrairement à ce qu'on aurait peut-être pu penser.
Effectivement, il y a quand même eu des statistiques récentes là, qui sont sorties. On a une baisse qui continue de diminuer au Canada en 2026, mais le Québec fait moins bonne que la moyenne nationale. On parle de 3641 véhicules qui ont été volés au Québec dans les 6 premiers mois de 2026. C'est une baisse de 6,4% par rapport à la même période en 2025. Mais à l'échelle canadienne, la diminution est de 10,1%. L'Ouest canadien, moins 14,3, l'Alberta, moins 15,1, puis l'Ontario, moins 8,4. Donc, pour une fois, on n'est pas trop dans les pires, mais c'est vraiment les baisses les plus importantes marquées. On avait quand même connu une diminution de 25% en 2025, ce qui en faisait le champion canadien de la lutte contre le vol automobile pour le Québec. On est en train de l'échapper un petit peu au travers de ça. Mais en même temps, ça porte une réflexion majeure et en continu sur la modernisation des technologies à l'intérieur des véhicules, où est-ce qu'on veut faire évoluer les systèmes antivol. C'est une nécessité maintenant qui est plus qu'obligatoire. Et ça repose sur qui? Ça repose sur les constructeurs. Ce n'est pas normal qu'encore aujourd'hui, autant de véhicules tombent dans les mains des ravisseurs. Et non seulement que des fois, tu remarques que c'est juste l'ajout du fameux système sans clé qui permet d'avoir une différence majeure entre une année où est-ce qu'un véhicule est énormément volé et un autre non. Donc, si tu regardes au niveau des véhicules les plus volés, le Tundra revient souvent en premier 10, mais le mien personnellement que j'ai, il ne va jamais se faire voler. Il y a une bonne vieille clé, comme on dit. Et je te confirme aussi que s'il y a encore des véhicules qui sont à transmission manuelle, ils ont très peu de popularité. Ouais. On voit vraiment juste des véhicules automatiques.
Souvent maintenant, avec les jeunes voleurs, ton antivol, c'est plus ton véhicule manuel. Tu sais, mon Wrangler, à moi, il est manuel, puis je suis très à l'aise de laisser les portes débarrer. De temps en temps, j'ai des surprises. Il y en a un qui dort sur ma banquette arrière, là. Mais de savoir que les nouveaux voleurs ne savent pas conduire manuel, ça me rassure beaucoup. J'aime bien parler des pays de cul. Je les nommerai pas, mais il existe des pays de cul qui accueillent nos véhicules voleurs. C'est quand même incroyable d'être capable de rouler sur un autre continent, Mathieu, avec une plaque qui vient d'un autre continent, puis de ne pas se faire achaler par la police. Tu es dans un pays où, je ne sais pas, moi, tiens, un pays sur le continent africain. T'sais. Et là, les Africains, ben, ils savent que, exemple, le Canada, on n'est pas sur la même terre. Il faut quand même que tu prennes l'avion. Là, tu vois un véhicule qui est plaqué Québec, et ces gens-là peuvent rouler avec ce véhicule-là pendant des années, avec une plaque du Québec sans se faire chier. C'est un peu bizarre.
Ah, c'est énormément bizarre. Il faut dire aussi que présentement, l'autre chose qui va être importante à travailler, c'est d'avoir comme un peu un registre de où on retrouve les véhicules volés. Mais encore là, tu sais comme moi que c'est très difficile pour les corps policiers locaux de commencer à travailler avec, disons, ceux en Afrique pour avoir une opération qui nous amènerait quand même à révéler plusieurs statistiques concrètes. Mais c'est sûr que c'est pas juste l'Afrique. Là. On retrouve au Moyen-Orient, en Europe, en Asie, en Amérique du Sud.
Non, les pays arabes aussi, là, on retrouve des véhicules du Québec. Là.
Oui, et ce qui amène souvent de l'information qui nous alimente un peu plus avec la réalité, les réseaux sociaux, TikTok, les pays africains n'ont plus aucune gêne à annoncer des véhicules à vendre. Et tu vois le conteneur qui rouvre, et tu vois les plaques de Québec, mais non seulement aussi les collants des concessions locales. À même la voiture, ils n'ont même pas pris le temps d'enlever la plaque. Et souvent, on remarque que c'est des véhicules comme Toyota Camry, Toyota 4Runner, tous les véhicules qui ont une valeur majeure. Et l'autre chose aussi qui joue un grand rôle dans le vol du véhicule, c'est les fameux réseaux. Hein. On sait que le port de Montréal était clairement un point de sortie important. En 2025, la Sûreté du Québec avait démantelé un réseau d'exportation outre-mer. Il avait saisi 94 véhicules volés. On avait vu que ça avait été évalué à plus de 6,3 millions de dollars. Là, l'autre donne qui s'en vient très intéressante, c'est que le port de Québec s'en vient très bientôt avec un classement international comme ceci. Là. Ça a été annoncé. Tu m'excuseras, je ne suis pas trop les détails point par point de ces nouvelles-là. Je sais qu'ils vont avoir de l'ajustement nécessaire, mais on va pouvoir maintenant, qui sait, peut-être avoir une évolution et devenir un genre de hub de justement ces véhicules-là. Il va falloir avoir une surveillance accrue, voire même, ils utilisaient tout ce qui était les chemins de fer pour le transport. Souvent, ça partait, voire même des provinces de prairies qu'on appelle. Ça s'en venait de notre côté sur les trains. On n'a pas affaire à des petits réseaux quand on parle du vol de voitures. Et une autre chose qui me préoccupe énormément, c'est de voir l'implication des jeunes d'aujourd'hui, comment ils sont en bas âge, des adolescents qui, pour à peine quelques milliers de dollars, quelques centaines de piastres, sont prêts à faire la job de ce qu'un grand du réseau du cartel va leur demander. Et le recrutement se passe énormément sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, parents, préoccupez-vous de ce que vos jeunes font. Enseignez-leur l'éthique et le respect, que ce soit pour le vol de véhicule, que ce soit pour le respect du côté vandaliste, l'éthique du bien commun. Vous allez voir que si on laisse ça aller, là, collectivement, ça va nous coûter cher au bout de la ligne.
Ouais, je ne suis pas un passionné des véhicules comme toi, là, mais mettons que je me posais la question, c'est quoi les véhicules les plus volés? J'ai l'impression que c'est des gros véhicules comme des Tahoe, des GMC, des Suburban, des Yukon, des Chevrolet. Sinon, tu as des véhicules comme les Toyota RAV4, les Honda Civic, les Toyota Highlander. J'ai entendu parler aussi des Toyota Highlander qui étaient très volés. Je pas mal dedans dans les véhicules les plus volés là, au niveau du Québec?
Oui, tu es énormément dedans et tu remarqueras qu'une grande majorité de ces véhicules-là qui sont de type japonais. On n'oublie pas quand même tout ce qui est camion de travail. On va voir quand même les F-150 qui vont figurer sur la liste. Pourquoi? Parce que justement, la demande, elle est forte, les demandes de pièces de remplacement. Tu sais comme moi que quand tu brises maintenant une lumière à l'arrière sur un Ford F-150, qu'il y a tout le principe de capteur à l'intérieur, non seulement le capteur pour la remorque, ce n'est plus un phare à 25 $ comme on allait chercher dans la cour à scrap. Avec mon père, hein, viens-t'en, on s'en va à la cour à scrap, on va se trouver une lumière de telle affaire. C'est terminé ce temps-là. Donc, veux pas, le vol aussi amène à créer un marché de pièces des fois plus accessibles. C'est sûr que c'est énormément alléchant. Quand un phare arrière est rendu à coûter dans les 2 000 $, tu vas créer artificiellement ce genre de choses-là, ce genre de réseau de vol-là qui va tenter de répondre à une demande. Les catalyseurs, c'était la même affaire. C'était pas juste pour les matériaux précieux, c'était pour la valeur gigantesque que ces pièces-là de rechange avaient. On parle de Honda CR-V, de Ford F-150, des Honda Civic, de Jeep Grand Cherokee, de Honda Pilot, Toyota Highlander, t'es tapé le poil dessus, Honda Accord, Toyota Tacoma, Toyota RAV4, voire même certains véhicules de la gamme Acura RDX. Il faut faire attention, des véhicules de niche très, très luxe, voire même exotiques, il y a de la demande, mais c'est parce que tu passes pas inaperçu non plus là, quand tu fais un vol de ce véhicule-là. Tandis que si tu fais un vol d'un F-150, il en pleut à toutes les rues. C'est parfois plus facile, au même titre qu'au nombre de Toyota Highlander qu'il y a sur les routes. Mais je rappelle encore une fois, il y a un travail à faire des manufacturiers. Et si j'étais dans une association de protection des consommateurs automobiles, là, tu peux être sûr que je ne les saignerais pas à peu près. J'irais faire de la représentation au niveau de notre Parlement pour qu'ils créent des règles qui ont de l'allure à la défense du peuple et non pas des affaires qui n'ont pas de sens, comme on entend trop souvent parler.
Ce qui est intéressant, c'est que comme à la grandeur du Canada, le vol de véhicules semble avoir diminué. Au Québec, une plus petite diminution que dans la moyenne canadienne, mais ça va nécessairement paraître dans les assurances. C'est ce que tu vas nous apprendre ce soir?
La réponse, c'est non, hein? Pas du tout.
Comment ça? Ça va pas avec, ça?
Écoute, les assurances sont à un prix tellement haut depuis. Non seulement le vol en était une partie, et là, on s'est dit, ben si les vols baissent, automatiquement, ça va baisser le prix des assurances. Mais le prix moyen des véhicules d'aujourd'hui a tellement augmenté, voire même le remplacement des pièces que je te mentionnais tantôt. Les pièces sont tellement rendues coûteuses. Les voitures modernes ont tellement de capteurs, de caméras, de radars, de systèmes électroniques, de pièces très spécifiques, uniques. Hein. Regarde, disons, les Coréens, on dirait qu'à chaque 2 ans, ils rajoutent une pièce de phare différente. L'aile, c'est plus la même courbe. Donc, au lieu d'avoir comme avant des véhicules qui, disons, avaient une durée de vie de 10 ans ou encore 12 ans sans changement, on est rendu qu'on crée un marché dans lequel on veut de plus en plus de technologie, de plus en plus de rapidité. Et en passant, c'est la même affaire dans le monde des power sports, des motoneiges d'aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier que globalement, on assure le coût d'assurance. C'est un risque global qu'on assure pour tout le monde. Donc oui, les primes d'assurance automobile sont toujours poussées par le haut. Le vol des véhicules un petit peu en baisse, mais devine quoi, les véhicules sont extrêmement chers à remplacer. C'est plus comme dans le temps. Là. Dans le temps, tu te faisais voler un Civic en 1993, ben, tu étais capable d'en avoir un pour 10 000 $ Tandis qu'aujourd'hui, tu es rendu un coût moyen qui dépasse les 35, voire même parfois les 40 000 $ pour une voiture de base. Réparation plus coûteuse, je t'en ai parlé. Les pièces et la main-d'œuvre, l'explosion de la main-d'œuvre sans cesse. Les garages qui recherchent toujours aussi des compétences, tant au niveau de la réparation, voire même au niveau de la mécanique. Et en passant, quand on parle de pièces, on parle de consommables aussi, le petit clin d'œil, les changements d'huile, t'as-tu vu comment ça a augmenté dernièrement? On parle de 30 % dans les 4 derniers mois.
30 % tabarouette.
Okay. Oui, vous allez faire un saut à votre prochain changement d'huile.
Et pourquoi? Est-ce qu'on l'a justifié?
C'est au niveau des matières premières. Toutes les histoires présentement aussi qui se passent avec le pétrole au travers de ça. Et non seulement, on le sait, il y a quelques joueurs majeurs de l'industrie qui fait 1 millier de marques d'huile. Bon, vous le savez, votre fameuse bannière qu'on aime tant, là, qui est dans le coin de la rue Bouvier du côté de Québec, puis qu'il y en a plein ailleurs aussi du côté de Montréal. Pour ne pas le nommer, ça commence par COS, puis ça finit par CO. Donc, eux autres même avaient une huile qui était parmi les plus abordables, mais a tellement augmenté dernièrement qu'on l'a vu sur les réseaux sociaux apparaître. Et si eux autres ne sont pas capables de s'en sortir à bon prix, ça m'étonnerait beaucoup que les autres réussissent aussi au travers de ça. Dernier point aussi, là, pour closer un petit peu le côté des assurances, la fréquence des réclamations. Il ne faut pas oublier que le nombre de collisions, de vols, de dommages, tout ça augmente. Les phénomènes météorologiques qu'on a eu dernièrement, ben, tu l'as eu, là, les coups de tempête, voire même de grêle, voire même des inondations. Il ne faut pas oublier qu'il y a toujours l'impact des historiques du conducteur et lieu de résidence. Je ne sais pas pour toi, mais moi, les dernières fois, je me suis promené dans certains quartiers chauds, tant du côté de Québec que du côté de Montréal. Ça n'a pas diminué, hein, la présence de gens qui ont plus ou moins le respect là, au niveau des véhicules. Donc, graffing, boss, vandalisme, tout ce que tu veux. Tu te réveilles, il te manque un miroir. Ben devine quoi, ça a un prix majeur. C'est plus un miroir à 20$ comme avant qu'on allait chercher là, dans la dent aux pièces, comme on dit. Le miroir est rendu avec des capteurs, une lumière clignotante, non seulement des fois un effet qui va diminuer la luminosité de la réflexion en pleine nuit des autres lumières. On se ramasse avec un miroir qui coûte 500, 600, 700, voire même des fois 1 500 $.
Ouais, ce que j'ai remarqué aussi, là, parce que tu parlais là, des POC sur les véhicules, les débosseleurs, ils commencent à en manquer. Puis ceux qui sortent des écoles, c'est plus des débosseleurs artisans là, qui ont appris leur job dans le garage. C'est vraiment des gens qui ont été à l'école. J'ai été consulté, moi, pour ma porte de Wrangler. Il y avait une coche, là, c'est mon déneigeur. C'est moi qui avais mal fermé ma porte. Puis avec le vent, la porte allait ouverte. Malheureusement, le déneigeur en recul. Là, il a accroché à la porte, ça a fait une coche. Et quand je suis allé voir le garagiste, où je voyais qu'il pouvait faire du débosselage aussi, il m'a dit « Ouais, on répare plus ça, il va falloir t'acheter une nouvelle porte », ce qui faisait en sorte qu'il fallait que je sorte 3 000 $.
Hé, tabarouette. Puis en passant, un Jeep comme le tien, ça court les rues, là.
Donc, exact. T'sais... Fait que là, je paye 3 000 $. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir un vieux débosseleur, puis il m'a réglé ça pour 225 $ avec une facture.
Oui, exact. Et prenons par exemple des remplacements de pièces. Tantôt, on a parlé un petit peu du RAV4. Là. Un RAV4 2017, là, la réparation du pare-choc à l'arrière, ça montait aux alentours de 2 769 $. Il y avait 17 pièces à l'intérieur. Juste, les statistiques ont été faites, que ça prend un petit peu de temps là, des fois à analyser, là, mais juste en 2022, la croissance était à 4 144 $ et il y avait 39 pièces à l'intérieur. Donc, juste dans cette période-là, de 2017 à 2022, c'est une augmentation de 50 % du coût de réparation. Ça va être intéressant de refaire avec le nouveau RAV4, parce que là, le 2026 est arrivé. Et je t'informe qu'ils sont tous rendus avec encore plus de quincaillerie à l'intérieur, tant des capteurs de stationnement que les caméras, que les faisceaux électriques, que les supports, sans oublier tout ce qui est aujourd'hui système d'aide à la conduite, que tant on met des obligations au niveau du gouvernement, hein, la fameuse caméra de recul, on semble oublier que c'est tombé obligatoire et que ça avait été fixé par des règles gouvernementales au travers du temps. Mais il ne faut pas oublier que tout ce qui est pièces de carrosserie et éléments de fixation, tout est rendu mou hein, sur un véhicule. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que le véhicule absorbe l'énergie de l'impact le plus possible, protège l'occupant à l'intérieur. Donc, on est très loin de clin d'œil feu Jacques Duval. Il y avait une émission qui s'appelait « Prenez le volant » et dans laquelle il faisait un test de pare-choc. Il se pognait un poteau en métal, puis il arrivait avec un genre de gros Monte Carlo là, des vieilles années, là. Puis il y avait des suspensions là, dans ces pare-chocs-là, tu avais des ressorts à l'avant, puis il donnait un coup dans le poteau et il disait « Alors, le test est concluant, bonne résistance, mais pas sans laisser quelques marques. » Dans le temps, là, tu pognais un poteau en métal, puis le véhicule survivait assez facilement. Ouais. Aujourd'hui, tu défais absolument tout, puis tout revole en mille et une pièces. Là, tu pleures parce que tu es obligé de ramasser tes morceaux.
Moi, c'est beaucoup le manque de respect. Puis, j'ai pas toujours été témoin là, de ça. Puis, je vois pas ça à tous les jours. Là, mais il y a un certain pourcentage de gens qui manquent de respect. Puis, parce que leur véhicule date de 10, 15 ans, ben, ils vont se parquer à côté d'un véhicule neuf. Puis, ils feront pas nécessairement attention. Puis, un petit coup de porte dans la porte de l'autre, c'est pas si grave que ça. Anyway. Pour ton char, ça ne fera aucune différence. Par contre, celui qui vient de s'acheter son char neuf et qui en est bien fier, lui, se ramasse avec une poque supplémentaire. C'est le manque de civilité des gens. Puis tu parlais des gens qui se stationnent en parallèle. Quand tu es en ville, que ce soit à Montréal ou à Québec, puis là, il faut que tu te parques sur le bord de la rue, bien, il y en a qui se parquent au son. Hein. Ils reculent, bang! Ils avancent, bang! Ils reculent, bang! Ils avancent, bang! Ah, tu vois, je suis droite. Moi, il laisse un petit espace pour sortir, puis il se rendra compte de rien. Ça, c'est un manque de respect flagrant. Puis malheureusement, on le voit plus souvent qu'autrement.
Oui, tu as raison. Puis pourquoi ça semble plus fréquent? Je crois qu'on est en train, des fois, de banaliser un peu les dommages. Une petite bosse, une rayure, pour la personne qui le fait, c'est insignifiant. Mais je te le dis, là, ça coûte plusieurs centaines de dollars à réparer. Puis moi, même si mon camion est assez vieux, j'ai une fierté de celui-ci. J'aime pas me promener avec un camion bossé. Vous allez me dire que je suis fier pète, c'est mon image. Non, mais je vais être franc avec vous autres. Un, ça coûte très, très cher. Encore une fois, on n'en parle jamais assez souvent. J'ai pas le goût aujourd'hui de redépenser 97 000 $ pour un équivalent de mon vieux camion pour avoir sensiblement la même affaire, le même V8, le même kit. On a le principe du « c'est pas à moi hein. ». Certaines personnes font beaucoup plus attention à leur propre véhicule que celui des autres. Ça, des fois, c'est indépendant là, de ce qu'il y a. Tout ce qui est les véhicules plus gros aussi, hein, les VUS, camionnettes, ça prend davantage d'espace dans les stationnements. Puis, il n'y a pas beaucoup de stationnements aujourd'hui qui sont adaptés ou encore qui ont évolué au même rythme. Au contraire, dans certains endroits, voire même où est-ce qu'on a une offre du stationnement à la journée, là, voire du côté de Montréal, tout comme à Québec, là, les lignes là, sont tellement pas larges que tu te rends compte facilement qu'il reste à peine quelques pouces de distance entre les véhicules autour. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a la distraction. Les gens aujourd'hui, là, les téléphones, les enfants, les écouteurs, le fait d'être précipité, beaucoup de gens sont moins attentifs lorsqu'ils font des manœuvres ou encore qu'ils sortent de leur véhicule. Puis je crois qu'on entend beaucoup la pression et l'impatience aujourd'hui. Tout le monde veut se grouiller, il faut que ça aille vite. Et ça augmente le côté comportement qui risque d'être négligent. Et si jamais il y a un impact, tu remarqueras le nombre de fois que les gens ne laissent même pas leurs coordonnées tout ça s'est perdu au travers de ça. Et encore une fois aussi, je crois que ça devient un cercle vicieux. C'est tellement rendu cher à réparer, mais notre comportement n'a pas nécessairement changé au travers du temps. On n'est pas encore rendu à considérer l'impact, voire même d'une mini-bosse sur un véhicule. Et ça, je trouve ça dommage. Puis clin d'œil, on salue tout le monde des communautaux. S'il y a bien quelque chose qui semble bosser en permanence et qu'on ne fait jamais attention puis qui dégage le « c'est pas à moi » ou la banalisation des dommages, regardez les véhicules communautaux, là, puis sérieux, là, ça n'a aucun bon sens. Et en passant, Marceau, nomme-moi qui est propriétaire de communautaux à un certain pourcentage.
C'est pas Alexandre Taillefer?
Non, c'est nous, Marceau. Ah! Le gouvernement a un très haut pourcentage dans communautaux, donc on paye collectivement pour ces véhicules-là, pour les réparations, tout ça. C'est dommage, encore une fois. C'est un beau service, mais je trouve malheureusement, puis surtout d'être abonné à la page des communautaux, là, je vois à chaque semaine un véhicule qui est abandonné avec un pare-choc arraché ou encore un intérieur digne qui a eu un party, je te dirais, à la Médusa de Montréal, la Médusa de Québec, là, tu sais, plein d'influenceurs là, dans ce véhicule-là. Je te dirais que c'est pas très chic. Là. Donc, voilà, petit clin d'œil, le fun, comme d'habitude. J'aime ça envoyer une petite
pointe. Tu vois, je suis allé chercher les actionnaires de Communauto. Effectivement, le gouvernement était est propriétaire à certains égards. Au début de tout ça, c'était M. Benoît Robert qui était l'unique actionnaire. Puis par la suite, ben là, avec le chiffre d'affaires qui a augmenté, ça a passé à d'autres mains.
Parenthèse, j'ai cherché longtemps la rentabilité de cette entreprise-là. Hein. Puis malgré que ça nous appartient, là, c'est parce que j'ai juste pas eu le temps, là. J'ai pas fait de demande d'accès à l'information, là. Mais tabarouette, incapable de voir les budgets de cette affaire-là. Ça doit être une trappe à cash incroyable. Non seulement à chaque semaine, les histoires de véhicules démantibulés. Vous le savez comme moi, si vous en croisez des communautaux sur la rue, je veux pas créer, je veux pas généraliser à 100%, mais on va y aller à 70. C'est pas la conduite la plus facile, mais c'est normal. Des fois, c'est des gens qui n'en conduisent pas. En permanence, des véhicules, on prend ce service-là pour les vacances ou autre, ou tant qu'on a vraiment très peu besoin. Mais tu sais, je vais être franc avec toi, là, je pense que c'est pas mal connu qu'on fait très attention. Au même titre que le fameux Corolla beige à 80 km/h dans la voie rapide et qu'on voit un beau Fedora avec une plume et un collant CA Québec, tu sais, comme un peu défraîchi à l'arrière. Ouais. Torsez-vous de là.
Mais ça, j'en avais parlé avec le ministre des Transports il y a de ça quelques semaines, puis il est supposé d'arriver des choses dans les prochains mois là, concernant ça. Du moins, les prochaines semaines, on va se souhaiter, malgré qu'actuellement, ils s'en vont en élection, donc il y aura peut-être d'autres choses à fouetter. Mais c'est pas normal que quelqu'un qui prétend avoir eu un permis de conduire dans un pays qui arrive ici, il l'a pas, son maudit permis de conduire, ou si là, on n'est pas capable de rejoindre les gens là-bas. Puis là, ben, tu es obligé de le croire sur parole, puis tu octroies le droit de conduire pendant 6 mois sur nos routes, alors que jamais conduit sur une route d'asphalte, il n'a jamais conduit l'hiver, puis ces gens-là deviennent de véritables dangers publics sur la route. C'est pas normal de deviner c'est qui dans le char en avant avant même que tu y vois à face. T'sais. Fait que non. Le ministre des Transports m'avait dit qu'il allait se pencher là-dessus parce qu'effectivement, lui-même l'avait remarqué. Les maudits permis internationaux, là, on devrait, à la Société d'assurance automobile du Québec, quand quelqu'un prétend avoir conduit dans un autre pays pendant 10 ans, bien, il devrait tout de suite rencontrer un expert de la Société d'assurance automobile du Québec qui va évaluer sa conduite sur la rue, sur l'autoroute, puis par la suite lui octroyer le droit de conduire pendant 6 mois. Puis après ça, bien, s'ils veulent y faire passer un examen pour y faire passer un examen, bien, ils le feront. Mais il faut au moins que tu t'assures au départ que le gars ou la fille sait conduire. Pour ce qui est de l'actionnariat de Communauto, là, c'est Benoît Robert qui était le principal actionnaire au début de tout ça. Par la suite, il y a Marco Viviani qui s'est immiscé dans la danse avec Jean-François Charette et Investissement Québec, donc le gouvernement du Québec, vous et moi, on est propriétaire de cette entreprise-là à 30%. Puis pour ce qui est de la rentabilité, je n'ai pas les informations actuellement.
Ah, c'est ça, je t'ai dit, c'est un mystère, cette histoire-là.
Oui, ouais, j'imagine que ça ne doit pas être payant. Là. C'est communauto. Ben, c'est payant tu sais probablement pour les actionnaires.
Ben oui, mais tu sais comme moi, que dès qu'ils ne diffusent pas quelque chose clair là, comme ces budgets-là, whoop, c'est sûrement pas gagnant, comme on dit. Là. On n'aura pas des actions avec ça. Touche pas aux actions communauto, s'il y en a.
Voilà. Maintenant, on parle de rumeurs. Les rumeurs. On aime ça, les rumeurs. Des rumeurs qui touchent Volkswagen. Il pourrait y avoir un petit camion 4x4 Volkswagen?
Oui, effectivement. Je vais t'avouer là, que dernièrement, je trouve que Volkswagen se cherche beaucoup. Et c'est pas la première fois qu'on voit des rumeurs qui nous disent qu'il va avoir un genre de camionnette compacte. Je te dirais à la hauteur d'un comparatif de Toyota Tacoma au travers de tout ça. Donc, Volkswagen pourrait finalement le lancer, ceci, en Amérique du Nord. Faut dire que on avait comme eu un abandon de ce projet-là en 2024. C'est Reuters qui dit que Volkswagen envisagerait de la lancer. Ça serait produit à l'usine de Chattanooga, là, du côté du Tennessee. Ouais. Notamment pour éviter les fameuses surtaxes là, douanières qu'on a au travers du temps. Ça serait, bon, peut-être du côté compact, mais on le sait, là, de plus en plus, il y a des véhicules qui gonflent. Donc, est-ce que ça serait vraiment intermédiaire? Ça reste à préciser. Mais il faut dire que Volkswagen en a dans le monde. Il y a l'Amarok. À vous, Google, chers auditeurs, allez voir c'est quoi un Volkswagen Amarok. Ça a quand même la gueule, ce véhicule-là. Et il faut dire que l'Amarok, on partage déjà la plateforme avec le Ford Ranger de ce jour, et ce qui pourrait amener une nouvelle collaboration en Amérique du Nord de Volkswagen Ford. Donc, ça pourrait être vraiment très différent de ce qu'on avait envisagé dans le passé. C'est le marché des camionnettes là, est toujours très important en Amérique du Nord, et voire même de plus en plus la camionnette compacte ou encore de moyenne taille. Pourquoi? Ben, encore une fois, le prix des camions d'aujourd'hui, ça a donc bien explosé. Puis là, je vous le dis tout de suite, si vous êtes un travailleur, vous voulez un véhicule de base, il n'y a pas de trouble. Habituellement, on s'en sort relativement assez bien avec ce qu'on appelle un work truck là, ou un camion de travail, disons, avec des roues en acier, voire même le fameux levier encore dans des Ford. Ça existe encore pour changer les rapports à même la colonne de direction. Même on va aller dans le Chevrolet, dans le GMC, les écrans vont être miniatures, ça existe encore. Mais dès qu'on commence à vouloir ajouter un peu de style au camion, d'aller vers le gros écran, on a beau avoir les prix employés, la meilleure promotion au monde, on se ramasse dans le camion qui coûte 80 000 bâtons.
Ouais.
Et au niveau des locations, je vais être franc avec toi, le meilleur côté location, c'est Ford qui l'a des fois avec ses prix employés. Là, on est capable de le baisser un peu, mais c'est tellement cher, Marceau, aujourd'hui. Donc, la concurrence est en train de se déplacer dans la camionnette moyenne, dans la camionnette compacte, voir où est-ce qu'on essaie d'offrir le meilleur prix. Mais encore là, des fois, ce n'est pas pour travailler à 100% là, avec ceci. Donc, on va voir comment Volkswagen va pouvoir tenter sa chance dans ce marché-là qui est quand même lucratif. Mais encore là, j'ai hâte de voir le modèle final. Et dernière parenthèse, les camionnettes d'aujourd'hui, les camions, faites attention. Hier, on me posait encore la question quand j'avais une réunion, il y a certaines personnes qui me parlaient voiture. Ils me disent, ouais, les camions d'aujourd'hui, c'est-tu moi ou c'est tough? Mais la réponse, c'est oui. Tant qu'à moi, là, il n'y a plus aucun camion fiable à 100% sur le marché. Ma recommandation, vous allez voir, j'ai changé mon fusil d'épaule. Louez le camion qu'il vous plaît pour une durée à l'intérieur de la garantie. Travaillez avec, déplacez-vous avec et remettez les clés après, tout simplement. On est rendu là. Moi, tant qu'à moi, là, je me surprends même de changer mon fusil d'épaule.
Parlons camion, justement. Le fameux Ford Phantom, là, ça, c'est-tu un Cybertruck qui a fait l'amour avec un Maverick puis ça a donné ce véhicule-là? Bon Dieu que c'est laid! Je pensais pas qu'on était capable de faire un véhicule encore plus laid que le Cybertruck.
Ben écoute, là, on est en train de se diriger vers un nouveau camion électrique de Ford. Il continue quand même d'être mystérieux. Et là, il ne faut pas se faire prendre à une chose, Marceau. Tu sais, il y a des images qui sont comme un peu espions. Ils ont beaucoup de personnes qui ont quand même lancé quelques images. On dirait un F-150 un peu rapide. Est-ce que c'est vraiment lui? Est-ce que c'est pas vraiment lui? Ford n'a pas fait de lancement officiel au travers de tout ça. Mais on est en train de réaliser qu'on se mesure aussi à des nouvelles compagnies comme Slate qui offrent un petit camion tout à fait, comment dire, abordable, accessible. Mais hey, je regarde aussi les images là, qu'on voit se promener présentement. Et si ça, c'est vraiment le résultat du Ford Phantom, je ne sais pas où est-ce qu'on va avoir notre succès, là. Mais il va falloir faire un gros changement majeur au paradis.
Mais comment ça fonctionne quand on décide de changer un design, là? Y a-tu juste une personne autour de la table ou sont comme 30, puis là, à un moment donné, ils passent au vote, là, c'est-tu lettre ou c'est pas lettre? On le commercialise-tu, on le commercialise pas? C'est ce modèle-là qu'on veut, c'est pas un autre. Ça fonctionne comment? Ça n'a pas de bon sens de commercialiser ça si c'est exactement ça qu'on nous présente, là?
Bien, en même temps, je te dirais que c'est pas arrivé aujourd'hui. Toi, tu entends parler du camion aujourd'hui, qu'on est sur le point de le lancer, mais en réalité, la réflexion du design, l'orientation, ça a eu lieu il y a 4 ans. Là. On est rendu là. Tu sais, souvent, le véhicule qu'ils sont en train de dessiner aujourd'hui avec de l'argile, là, souvent, là, qui vont s'asseoir aussi avec l'équipe des designers, puis non seulement qui vont nous dire, OK, quel va être notre exercice de style? Bien, il y a des fois que ça peut partir de l'inspiration d'un ballon de soccer, comme d'autres fois, ça peut partir d'un avion. Là. Mais la réflexion a eu lieu il y a 4 ans, avec les goûts d'il y a 4 ans. Et souvent, lorsqu'il y a un exercice majeur de style, où je ne sais pas, moi, la mode se met à changer d'un coup sec pendant la deuxième ou la troisième année, bien, des fois, on arrive avec des styles qui nous paraissent déjà dépassés. C'est pour ça que des fois, tu vas voir des manufacturiers qui vont oser énormément et d'autres qui vont conserver ça de manière très, très classique. Et les images que tu vois présentement, là, que tu recherches sans doute, c'est des gens qui ont, comment dire, utilisé l'intelligence artificielle ou encore qui ont pris les informations qu'ils avaient en main, qui ont fait comme un design de style de leur propre côté. Mais encore là, l'image finale nous sera révélée là, par Ford au travers de tout ça, mais ça donne quand même déjà une bonne idée. Le Ford Phantom, c'est quoi exactement? C'est un véhicule camion électrique intermédiaire. Ça va se positionner dans le marché des véhicules électriques les plus abordables, qui va être construit sur une nouvelle plateforme universelle électrifiée de Ford. Et là, on nous dit que ça va être une batterie à autonomie standard avec un prix de départ annoncé au Canada qui devrait tourner aux alentours de 38 690 $. Je les ai trouvés extrêmement précis. J'espère qu'ils ne me tirent pas un Elon Musk. C'est quoi faire un Elon Musk? C'est d'annoncer le Cybertruck à un prix complètement dérisoire. Finalement arrivé que le prix est de je ne sais pas comment dizaines de milliers plus cher. Et Ford nous font aussi une fois de temps en temps ce qu'on appelle faire un Maverick. C'est quoi faire un Maverick? Lorsqu'ils ont lancé leur petit camion Maverick, le prix était délicieux. On a été capable d'avoir la première année à ce prix-là et à partir de la deuxième année, la troisième année, oublie ça, ça a disparu totalement l'accessibilité. Donc ça, j'appelle ça faire un Maverick. Donc c'est weird un peu de connaître déjà le prix. Alors que Ford reste totalement discret là, sur plusieurs caractéristiques importantes là, du camion, on ne connaît pas encore tous les détails d'autonomie, de puissance, de capacité de remorquage et ainsi de suite, mais on nous promet un véhicule polyvalent, 5 places, avec un espace intérieur annoncé comme étant supérieur à celui d'un RAV4, un coffre avant, une caisse arrière, un grand écran à haute résolution, clé numérique, puis la capacité d'alimenter des équipements là, grâce à de la recharge bidirectionnelle, donc peut-être utile sur un petit chantier là aussi au travers de ça. Maintenant, donc, bien hâte de voir.
Ouais. Maintenant, les amateurs de supercars vont être bien servis chez Dodge parce qu'on annonce un Dodge Charger Super B 2027. Il va avoir, puis là, je fais une erreur de français évidente, c'est-à-dire 600 chevals dedans, 600 chevaux vapeur à l'intérieur de ce Dodge Charger. Ça va être une machine de guerre.
Machine de guerre totale. Et parlons donc un petit peu du marketing présentement de cette gamme-là. Tu sais, tu regardes les annonces de certains, puis ça se promène dans la nature, tout est beau, puis tu entends quasiment les abeilles, le petit chevreuil, puis tu vois le petit enfant heureux qui regarde le ciel, la nature, tout est beau. Tandis que du côté de Dodge, on fait des burns, on fait de la boucane, on déplace des chevaux. On est en train de prendre une direction vraiment spéciale au travers de ça. Tu sais, je vais faire un clin d'œil, on prend la direction sanaire, d'accélération, des pistes de course, on aime ça. C'est à la limite redneck un peu, mais on arrive avec le retour du Super B. Tu l'as dit, 600 chevaux. Ça va être une édition limitée en 2027. C'est une version qui va être améliorée avec le moteur, le fameux Hurricane, le 3 litres biturbo à 6 cylindres en ligne. C'est 531 livres-pieds de couple qui va être disponible en 3000 et 5900 tours minute. On s'attend à un 0-100 km/h tout juste sous la barre des 4 secondes et semblerait que ça fait le quart de mille d'œil sanaire en 11,8 secondes. Ça commence à être rapide Et c'est Garrett qui a contribué là, à la partie suralimentation avec un plus gros turbocompresseur. On améliore les systèmes de refroidissement aussi. Et bien entendu, question de faire trembler tes voisins quand tu démarres la voiture pour montrer que tu es un super B, là, un super ton aussi. Là. C'est un échappement beaucoup plus agressif. Et bien entendu, la programmation électronique aussi au travers de ça. Tu as un mode piste et drague, un peu clin d'œil bon, à des Mustangs. Ça existait déjà au travers de certains véhicules, voire même des véhicules électrifiés. Et tu vas pouvoir passer rapidement avec un bouton de la traction intégrale au mode propulsion. Et tu as même une fonction pour réchauffer tes pneus. Donc, tu peux verrouiller le freinage à l'avant et faire ton plus beau chaud de boucan pour réchauffer tes pneus puis réussir à faire le meilleur quart de mille que tu veux après. Mais je vais être franc avec vous, là, quand on roule des Goodyear Eagle F1 là, Supercar 3, je vais penser au prix à chaque burn-out que je vais faire. Mais pour arrêter la machine aussi, tu as des freins Brembo là, de 16 pouces. C'est agressif, c'est produit en Ontario, ce qui est quand même une bonne nouvelle là, pour l'industrie canadienne. Donc, à l'usine de Stellantis de Windsor là, en Ontario, bien entendu, ça va être en quantité limitée.
Parfait. Puis ça pourrait coûter combien ce véhicule-là?
On va voir le prix et la date de commercialisation. La date au Canada, ce n'est pas encore annoncé clairement, mais c'est le genre de véhicule là, qu'on crée une... Ça, en passant, là, Dodge, puis Jeep, puis Stellantis sont forts là-dedans. On crée une édition très limitée. Là. On dit qu'il va y avoir à peine quelques unités. Donc, tout le monde se garoche là-dessus. Il y a même des fois des investisseurs qui veulent garder ces véhicules-là, tant pour le côté rétro que peut-être pour la valeur que ça va prendre dans le temps. Mais je te confirme que des fois, ils sont très sournois Dodge et Jeep là-dessus. Ils ressortent une autre version 2 ans après. Ça vient brouiller un peu les plans de ça. Donc, édition limitée, peut-être aux alentours de 100 000 $ ça ne m'étonnerait pas là, pour ce véhicule-là.
OK. Maintenant, fais-moi rêver parce que moi, je suis un grand rêveur. J'ai toujours rêvé de me promener avec les véhicules qui ressemblent aux véhicules de Batman. La NSC Blackbird noir mât, elle est de toute beauté. Est-ce que c'est vraiment une voiture qui va exister?
Oui, monsieur. Hey, j'aimerais ça qu'on parle un peu du passé. Tu te rappelles-tu quand on était jeunes? Moi-même, des fois, on allait au marché aux puces où tu arrivais chez ton meilleur ami. Il y avait toujours la belle Lamborghini Diablo là, sur un gros cadre, mais le cadre était illuminé avec des petites lumières de light bright, là, qu'on pourrait dire. Là. Et les jeunes, ils font tout ça encore aujourd'hui? C'est d'avoir, mettons, un poster de, ou encore un cadre de cette Blackbird-là.
Non, aujourd'hui, comme... c'est des Mini Cooper. Ils veulent des émotions.
Ça me donne le goût de finir l'entrevue de Retina, mais en tout cas, on va quand même continuer. L'NSC Blackbird, c'est un hypercar américain qui tourne 12 écrans. Puis pourquoi ça? Ben c'est simple. Premièrement, si le nom NSC vous dit quelque chose, c'est normal. C'est une entreprise, comme je te dis, américaine, qui est spécialisée depuis 35 ans dans les véhicules de haute performance. Et c'est nettement fait connaître là, avec ses préparations extrêmes ainsi que la famille Venom F5. C'est un hypercar qui est développé au Texas. Et là, la Blackbird, NSC prend une direction complètement différente. C'est inspiré du fameux avion espion, là, le Lockheed de SR-71 Blackbird. Ça va être produit à seulement 71 exemplaires, clin d'œil encore une fois à l'avion. Et les chiffres ne sont pas choisis non plus au hasard, parce qu'à 71 000 à l'heure, parce que c'est américain quand même, il y a deux stabilisateurs arrière qui se déploient à 71 degrés. Pour donner encore plus l'effet Blackbird, si on veut. Sous le capot, c'est un V8 atmosphérique de 6,2 litres qui est très puissant. On parle, pas encore le chiffre officiel, mais entre 800 et 850 chevaux. Ça va être une boîte manuelle à 6 rapports de tout et propulsion. Et c'est un moteur qui, attache ta tuque, est capable de grimper jusqu'à 9000 tours minute. Donc, on est comme revenu un peu à l'ancienne, car à l'intérieur, il n'y a pas d'écran tactile. Pas de gros tableau de bord numérique, pas d'automatisation pour tout faire à votre place. C'est un contour classique analogique, des interrupteurs, des boutons physiques, une boussole de style aviation, puis voire même une clé traditionnelle pour démarrer. Donc, c'est complètement fou qu'on prenne une direction. Puis dans un monde où est-ce que les hypercars deviennent de plus en plus techno, tu as l'impression d'avoir un ordinateur roulant, là, puis lourd, puis automatisé. Bien, NSC, là, ils ont voulu nous rappeler pourquoi qu'on était tombé amoureux de l'automobile là, en premier lieu. Là. C'est un moteur, une boîte manuelle, une connexion directe entre toi et la machine. Là, ça ne se réinvente pas. Au contraire, ça ramène ce que c'était la vraie voiture classique. Et ça me rappelle un clin d'œil à ce que c'était un peu un Viper aussi dans le temps, les premières générations.
Ben oui.
Cependant, la Viper était sournoise. C'est une voiture qui faisait peur. Mais de revoir une version plus à jour d'un NSI comme ça, si c'est stable, si la voiture elle est capable de manger du bitume, d'amener un côté rétro. Si j'étais riche, demain matin, j'irais avec ça.
Ouais, puis il y a beaucoup de gens qui s'étaient plantés avec la Viper à l'époque. Oui.
On se rappelle aussi du fils de Hogan hein, qui avait planté ça de manière assez exceptionnelle. Puis d'ailleurs, je ne sais pas, lui, il est sorti de prison, lui, parce qu'à un moment donné, les courses avec un Supra, ça avait mal viré, là, une histoire de course de rue. Puis écoute, ça a marqué la fin, je pense, aussi de leur genre de série télévisée là, à un moment donné qu'il y avait dans le temps.
Ouais, faut qu'ils vivent leur jeunesse. Faut qu'ils vivent leur jeunesse, ces jeunes-là. La Rogue E-Power, qu'est-ce que c'est ça?
Ah, Nissan. Hey, en plus, j'ai essayé un Infiniti dernièrement, là, puis sérieux, Nissan, là, va falloir que vous faisiez quelque chose, là, parce que ce véhicule était beau, là, mais je me sentais tellement pas dans une version de luxe d'un Nissan, là, c'était le festival de la vibration. En tout cas, on pourra en reparler tantôt. Le Nissan, là, il mise gros sur la technologie qu'on appelle le e-Power, qui va être dans le prochain Rogue. Et moi, justement, mon éditorial que j'avais écrit, là, moi, je suis clair, il va falloir plus que ça pour nous impressionner. C'est le PDG de Nissan qui a qualifié le lancement du Rogue e-Power 2027 qui s'en vient du lancement le plus important de l'année pour Nissan. On peut comprendre pourquoi. Nissan accuse un retard là, dans le domaine des hybrides en Amérique du Nord, alors que Toyota, par exemple, eux autres profitent depuis longtemps là, des années d'avancée avec une gamme électrifiée qui est beaucoup plus développée. Le Rogue E-Power va arriver à un moment quand même assez stratégique, particulièrement alors que la demande pour les hybrides augmente. Là, le prix du gaz est encore là. Et je te dirais que c'est un bel alternatif pour ceux-là qui ne veulent pas aller 100% électrique présentement. Donc, la technologie est intéressante. Mettons, le véhicule va être propulsé exclusivement par deux moteurs électriques, tandis que le moteur à essence va agir comme un générateur. Il n'y a pas de transmission traditionnelle, pas besoin de recharge avec une prise et une transmission intégrale à deux moteurs offerte de série. Tu sais, ils nous ont encore mis ça visuellement, mais tu sais, quand je regardais ça, il y a certains autres manufacturiers qui ont fait des clins d'œil à cette technologie-là. Fait que, tu sais, sur papier, là, c'est une recette qui peut être intéressante, surtout pour nos hivers là, de notre côté. Mais là où est-ce que je vais être un peu plus critique, c'est si on considère que le Rogue E-Power comme son lancement le plus important de l'année, on aurait aimé que le constructeur saisisse aussi d'autres balles à l'occasion, là, pour créer peut-être quelque chose de vraiment hybride rechargeable. Parce que Nissan, c'est pas très forcé là, avec cette version-là. On aurait pu créer un Rogue PHEV distinctif, mais devine quoi, on a pris littéralement les badges Mitsubishi du Outlander PHEV, on a collé un logo Nissan là-dessus, puis on a dit, tadam, voici notre véhicule. Alors, pourquoi se vanter d'une technologie extraordinaire d'un autre côté copié? Et l'autre chose que je te disais tantôt, les ventes, c'est pas si mal au Québec de Nissan. On en voit quand même pas mal. Là, on parle pas d'Infiniti, parce que ça, c'est tough. Mais il faut que les choses soient en perspective. Nissan, il est encore en mode redressement. Les ventes mondiales demeurent sous pression, particulièrement en Chine. Puis le constructeur a même eu à la baisse ses prévisions de volume pour l'année. Et ça, ça fait mal. Les consommateurs, eux autres, sont de plus en plus exigeants. Puis Nissan va devoir faire plus que simplement rattraper son retard, proposer des produits qui donnent réellement envie de choisir Nissan plutôt que la concurrence. On pense notamment à la technologie moteur VC turbo. Hein? On l'avait présenté au lancement comme une véritable révolution technologique. Mais devine quoi? C'est un des moteurs qui était les plus vibreux que j'ai essayé dernièrement, qui n'a pas nécessairement d'économie d'essence. N'importe quel mécanicien ne voudra pas toucher ça avec une pôle de 30 pieds. Pourquoi? Parce que c'est tellement complexe. Donc, est-ce que le Rogue E-Power va être important? Certes. Mais est-ce que ça va vraiment enfin nous surprendre ou simplement tenter de rattraper? J'espère qu'on n'est pas en train de faire un petit marketing sur le site comme ça.
Mathieu Thomassin, c'est l'excellent chroniqueur automobile de Question Auto Car Question que vous pouvez retrouver sur YouTube. Donc, on vous invite à vous abonner à ses chaînes. On va faire une courte pause et on revient tout de suite. Ce soir, on parle du merveilleux monde de l'automobile.
Marceau, le soir. Tous les minutes.
midi, à Boulevard 102.1, on en jase.
Vous avez peut-être vu au cours des dernières heures ou des derniers jours beaucoup de personnes que vous avez aucune sainte idée c'est qui sur vos réseaux sociaux. Un en particulier, Julien de Médiza, tenait des propos inacceptables. Puis ce qu'il a fait, c'est qu'il a loué un méga yacht pendant une fin de semaine, puis a invité 10 streamers québécois qui font des vidéos en direct. En gros, ce qui se passait, c'est la première soirée, il n'était pas satisfait du service qu'il avait sur son yacht, okay, qu'il a payé au gros prix.
Excellent. On écoute.
Ça se prie là, man. Tu mets à quatre pattes pour tous les clients, là. Mm-hmm. Il va y avoir un clip de Médusa misogyne, comment regarder comment il parle des femmes.
Ben, je pense que c'est un gros colon, là.
Ben non, mais je rappelle, il est sur un yacht, fait qu'il y a probablement des cuisinières, des serveuses, des personnes qui sont là pour toutes les raisons, sauf se mettre à quatre pattes pour Médusa. J'ai regardé les commentaires en dessous de beaucoup de vidéos. Beaucoup de personnes qui le défendaient. Moi, je pense que c'est ça qui m'a choqué. Ben,
avec Jeff Fortin et Antonin Iaccarini, on en jase tous les midis à Boulevard 102.1.
Le feu qui crépite, les chaises de camping et une glacière pleine de bière. Des fois, le bonheur, c'est aussi simple que ça. Cheers! Chaloux à Saint-Émile, Beauport et Sainte-Cath.
Les inscriptions du Collège Barthes, c'est maintenant! Plusieurs formations se donnent maintenant du confort de chez toi. Informe-toi sur nos AEC 100% en ligne en animation 3D, programmation en jeux vidéo, marketing des médias sociaux et création de balado. Aide financière aux études admissibles. Détails sur barthes.ca.
Du 4 au 22 août, vivez la magie des grands feux Loto-Québec à la place des Canotiers et au Quai Paquet. Célébrez notre 30e anniversaire lors de 8 soirées uniques. Dès 18h, plongez dans l'ambiance avec des dizaines d'artistes, DJ et groupes de musique qui vous feront vibrer. Puis à 22h, le ciel s'illumine avec l'incontournable spectacle Pyro Musical. Un événement gratuit pour tous. Programmation sur lesgrandsfeux.com. Les Grands Feux Loto-Québec, une collaboration de Croisière AML, Le Port de Québec, TVA et Boulevard 102.1.
Chez Promutuel Assurance, on vous offre des protections habitation adaptées à...
Excusez, c'est moi la voix de Promutuel d'habitude.
Ouais, je sais, mais ils ont été tellement bons pour assurer ma maison, ça me tentait.
Je comprends. Vous avez eu du bon service.
Mais non, c'était facile, là, super clair, puis pas cher en plus.
Ouais, c'est vrai qu'ils sont bons.
Donc, je peux finir?
Oui, on le fait ensemble.
OK.
Économisez jusqu'à 690 $
en regroupant vos assurances auto et habitation
chez l'assureur qu'on aime recommander. Des conditions s'appliquent. Promutuel Assurance et la 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 la.
Cette année, prenez une longueur d'avance sur votre gazon. Réservez vos services pour l'été prochain avec Winman Entretien de pelouse et bénéficiez des meilleurs rabais.
Faites le bon choix avant tout le monde.
Appelez-nous ou visitez winman.com.
Envie d'un week-end qui sort de l'ordinaire? Retenez ça! Du 27 au 30 août, le Festival du Bûcheux vous attend à Saint-Pamphile. Assistez à des compétitions impressionnantes comme l'abattage de précision et le triathlon du bûcheron.
Profitez aussi des spectacles de Caen, Madeleine, Soulja et Guylaine Tanguay.
Puis, laissez les enfants s'amuser au village de Pistoc avec jeux, mascottes et mini-fermes. Le rendez-vous de la fin d'été en Chaudière-Appalaches, c'est le Festival du Bûcheux à Saint-Pamphile. Manquez pas ça! Visitez Festival du Bûcheux.
Si vous voulez remplacer vos vieux thermostats par des thermostats intelligents, c'est le meilleur moment. Hydro-Québec offre présentement les thermostats intelligents à 0 $ avec l'installation gratuite. Beau temps pour changer, ça vous fera économiser cet hiver. Pour les clients d'Hydro-Québec seulement, des conditions s'appliquent.
Les Misérables, la comédie musicale, arrive à Québec dans une méga-production à couper le souffle. Laissez-vous emporter par l'une des plus grandes histoires jamais racontées, portée par des chansons inoubliables et plus de 50 artistes sur scène. Maintenant à l'affiche au Grand Théâtre de Québec. Détails et billets à lesmiselacomediemusicale.com.
Avez-vous eu des problèmes respiratoires au cours des 6 derniers mois, tels une toux inexpliquée, un essoufflement, une production de mucus ou une respiration sifflante? Dr Côté et son équipe de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec ont créé un questionnaire destiné aux adultes afin de déterminer s'ils risquent de souffrir d'asthme ou de MPOC. Apprenez-en davantage sur cette étude approuvée par le Comité d'éthique de la recherche de l'IUCPQ en visitant testpulmonaire.ohri.ca.
Venez créer des souvenirs en famille. Village Vacances Valcartier, une journée, c'est pas assez. Réservez en ligne pour économiser.
Allô, c'est PA Méthode. Si tu veux retrouver ton toit intérieur, là, ben oublie le yoga. Y a rien pour te faire sentir mieux que de changer d'auto.
C'est le temps de changer.
Oh que oui, c'est le temps de changer.
Durant la grande liquidation chez 5 fois Nissan et Beauport Nissan, profitez de rabais de fin de saison jusqu'à 13 500. Rogue, Kicks, Sentra, Ariya, venez en faire l'essai durant la grande liquidation Nissan chez Beauport Nissan et 5 fois Nissan.
Plongez dans Beast Casino, une expérience de jeu simple, rapide et immersive. Avec plus de 4400 titres, des machines à sous haut de gamme, des jeux en direct, une interface fluide et un vrai casino en direct animé par des croupiers et propulsé par Pragmatic Play Live. Visitez notre lobby de jeux pour des classiques intemporels ainsi que des nouveautés. Beast Casino offre un divertissement continu avec une sécurité de niveau professionnel. Des conditions s'appliquent, ouvertes à tous les joueurs, 18 ans et plus. Ce site vous permet de vous amuser gratuitement. Veuillez jouer de manière responsable.
Les inscriptions du Collège Barthes, c'est maintenant. Découvre nos programmes en graphisme, animation 3D, informatique, photographie, cinéma et droit, ainsi que nos nouveaux DEC préuniversitaires en arts, lettres et communication, avec 5 profils créatifs. Plusieurs formations sont aussi offertes en ligne. Détails au barthes.ca.
L'application Boulevard, dans une poche près de chez vous. Poche de jeans, poche de shorts. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Mathieu Thomassin, chroniqueur automobile, l'expert automobile, devrais-je dire, que vous pouvez retrouver sur ses chaînes YouTube, Car Question et Question Auto. Je vous invite à vous joindre à ses chaînes YouTube dès maintenant. Mathieu, tu es toujours là?
Toujours.
Ouais, c'est un plaisir de parler de véhicules avec toi. Il nous reste encore quelques minutes. Parler peut-être de nouvelles là, qui proviennent de la compagnie Jaguar, là, une nouvelle qui est sortie vers les alentours de 10h ce matin. C'est tout frais.
Tout frais, c'est Jaguar qui dévoile pour la première fois l'intérieur de sa nouvelle Type 01, une GT électrique 4 portes qui marque le début d'une nouvelle ère pour la marque. Et là, vous le savez, nous, du côté de mon entreprise de presse, je reçois le communiqué. J'aime ça des fois vous lire des lignes. On dit que c'est un design intérieur audacieux. C'est une position de conduite GT, des matériaux haut de gamme, une technologie intégrée, une philosophie minimaliste et spectaculaire et le lien entre extérieur et intérieur raffiné. Une première du Nord américaine, le prototype va être présenté avec un nouveau camouflage durant le Monterey Car Week, qui est vraiment là, le genre de Pebble Beach, là, un genre de concours d'élégance là, le 16 août prochain. L'image qu'on nous envoie, je suis là, tabarouette, Jaguar se cherche-tu? Je crois que oui. Tu sais, on est tout le contraire de tantôt de ce qu'on vous a parlé de la NSI. Là. On est vraiment rendu dans un air ultra technologique, minimaliste, que ça a l'air à plaire à tous ceux-là qui veulent s'appeler stylistes élégants de classe mondiale du côté de New York. Là, ce qui est arrivé au travers du temps, il faut se rappeler que Jaguar a fait énormément parler d'elle. Pourquoi? Parce qu'on a complètement changé l'image. Et en novembre 2024, on avait lancé une nouvelle identité visuelle, nouveau logo, nouvelle typographie et une nouvelle philosophie qu'on appelait le modernisme exubérant. Et le slogan « Copy nothing, ne rien copier » accompagnait cette transformation-là. Puis la publicité puis le lancement, devine quoi, ne montrait aucune voiture. C'est absolument ça qui nous a tous surpris. On ne voyait rien. Et même au niveau du logo, ça l'a divisé beaucoup. Il y avait le fameux félin de Jaguar qui était historique, qui était très reconnaissable, qui a été remanié à la nouvelle identité puis qui a été jugé par plusieurs comme trop générique, voire même éloigné de l'automobile. Donc, Jaguar a joué un pari extrêmement dangereux. Pour la Type 1, on a fait le virage électrique. Ça va être une GT 4 portes électriques développée sur la nouvelle architecture JEA avec une puissance qu'on annonce de plus de 1000 chevaux. Et là, quand on a vu l'image, on s'est dit, c'est tellement radical, ça n'a pas de bon sens. Est-ce que ça va être vraiment un véhicule qu'on va voir rouler sur les routes? On a intitulé ça un paradoxe de Jaguar. Et là, est-ce que ça va marcher? On a provoqué. Ça l'a réussi. Mais le problème, c'est qu'il faut faire parler de soi, mais non seulement convaincre les clients. Et ça, c'est deux choses totalement différentes. Donc, avec l'image intérieure que je vois, je ne suis pas particulièrement excité. Même si à la lecture du communiqué, on tente de m'exciter. Voilà.
qu'est-ce qu'ils vont faire pour être capables d'aller rejoindre les jeunes d'aujourd'hui, Jaguar? Parce que me semble que, tu sais, Saab, Jaguar, Buick, et on dirait qu'ils ont oublié les jeunes pendant des années et des années, désolé. D'ailleurs, Saab, ça existe-tu encore?
Non, ça n'existe plus au travers de ça. Tu sais, est-ce qu'on veut viser une stratégie de rejoindre les jeunes? Je crois qu'on veut surtout attirer une nouvelle clientèle, plus jeune, plus aisée, urbaine, qui est très sensible au design, à la mode, l'exclusivité, alias l'influence sans doute aussi qu'on va voir. Donc, est-ce qu'on vise spécifiquement les milléniaux et la génération Z avec une image beaucoup plus contemporaine et artistique? Bien, je pense que oui, un peu. Puis, tu sais, le slogan, en tout cas, j'ai hâte de voir comment ils vont le faire évoluer. Mais en tout cas, il y a quand même des gros problèmes. Tu sais, les jeunes que Jaguar cherche à séduire, ne sont pas nécessairement les jeunes moyens. Ça va être une nouvelle génération qui va être beaucoup plus chère que les modèles précédents. Puis Jaguar a même indiqué vouloir attirer une clientèle nouvelle avec des véhicules qui peuvent coûter 120 000 $ US. Donc, c'est 60 000 $ de plus qu'auparavant. Donc, le 30-45 ans, avec un fort revenu urbain, intéressé par la mode, le design, la technologie de luxe, je vais être franc avec toi, il n'y en a pas des tonnes.
Non, c'est ça.
C'est ça. Puis là, la stratégie qu'on ne veut pas copier, on ne veut pas répliquer BMW ou Mercedes-Benz. Et tu sais, je te confirme aussi, Marceau, qu'on est dans une génération de gens qui aiment beaucoup rêver, l'escapade, que je crois qu'aussi au travers le temps, on a découragé un peu de dépenser dans un véhicule qui vaut cher parce que la facture de la réparation, de l'entretien des freins ou autres cogne aussi très rapidement à la porte. Donc, tu sais, les jeunes aujourd'hui, là, t'en vois là, qui ont l'air de rouler avec des beaux BM, mais c'est pas rare de voir des pneus Sunling sur le BM et non seulement de voir un arbre de Noël à l'intérieur. Donc, souvent, ils négligent le côté entretien et réparation au prix de l'image qu'ils veulent dégager. Mais moi, je te dis tout de suite, ça ne m'impressionne pas. Donc, hâte de voir la suite. Est-ce qu'on va trouver Jaguar cool pour une nouvelle génération ou simplement bizarre? C'est un pari très, très chaud, comme on dit.
On a quelques rappels de sécurité. Puis d'ailleurs, quand on est actionnaire là, à la bourse d'une compagnie automobile, puis c'est une compagnie qui en fait beaucoup de rappels de sécurité, est-ce que c'est chiffré, ça, tous ces rappels-là en termes de dollars? Comment ça peut coûter une entreprise de faire des erreurs qui font en sorte qu'on est obligé de rappeler 156 000 véhicules?
Ça peut coûter des millions de dollars, voire même des centaines de milliers de dollars. Et les rappels touchent absolument tout maintenant. Ça peut être des pneus, ça peut être vraiment là, un problème de sécurité, un problème de technologie, voire même des fois, c'est juste un collant dans la portière. On a déjà vu des rappels pour au-dessus de 100 000 véhicules et on a vu des rappels pour deux véhicules au travers de tout ça. Donc, encore une fois, les rappels, c'est pris beaucoup plus au sérieux qu'avant. Et il y a même un clin d'œil qui est fait à Ford parce qu'il y a des gens qui disaient qu'il n'y a pas une semaine où est-ce qu'il n'y a pas un rappel pour Ford. Et je suis obligé de te dire que des fois, c'est pas mal vrai. Et un autre truc aussi, tu sais, on parle vacances de ce temps-ci, on parle relaxer, partir à l'aventure. Si vous voyez le nombre de rappels qu'il y a sur des roulottes, des RV, des véhicules récréatifs, ça aussi, ça n'a pas de sacré bon sens. Réfléchissez comme il faut avant d'acheter ça. On dirait que ça coule par défaut à la sortie du manufacturier.
Des chariots de vaisselle?
Ouais, monsieur, mais tu sais, ça fait des bonnes brochettes. Moi, j'ai toujours rêvé là, de dire, hey, on va faire les brochettes en arrière pendant le temps que je conduis. Là. Là, tu sais, ça fuit.
C'est un peu toxique, mais j'imagine que tu parlais à ton chum de gars. C'est ça que tu lui disais, ton chum de gars?
Oui. Okay. Ah oui. Hey, attends, je suis pas parti sur la vague d'influenceur, moi, là, puis de bateau à Miami. Là.
Non, c'est ça. Puis j'ai déjà eu une copine qui appelait ses chariots de vaisselle-là. Elles appelaient les boîtes à caresses. Fait que j'avais l'intention de m'en acheter, mais finalement, ça a fini avec elle. Fait que j'ai pas acheté de chariots de vaisselle ni de boîtes à caresses, malheureusement.
Ouais, la scène dans le film d'Elvis Graton aussi, ça a mal vieilli, hein, quand il en ramasse une petite avec sa boîte à caresses.
Mathieu Thomassin, pour les gens qui veulent en savoir plus sur le merveilleux monde de l'automobile et qui t'adorent comme chroniqueur auto, on peut te retrouver à quel endroit?
On s'en va directement sur Facebook. Allez voir Mathieu Thomassin. Sinon, question auto. Vous avez aussi les chaînes YouTube. Vous avez TikTok aussi, qu'on fait des fois un peu plus de l'humour punché relié à l'automobile. Écoute, je suis obligé de te dire qu'un petit vieux comme moi, là, qui a au-dessus de 10 000 abonnés, écoute, je suis quand même fier. Là, on va y aller comme ça. Pas encore au stade d'influenceur, mais pas loin, pas loin.
T'es une machine. Espérons que je vais te voir à occupation double un jour.
Ouais, non, ça arrivera pas. Écoute, je suis attaché. J'ai les mains liées.
Bon, tu changeras ton nom pour... tu changeras ton Mathieu pour Kevin. Tu auras plus de chances d'être accepté.
Oui, je pense qu'ils font ça hein, sur certains sites un peu louches. Là, ils créent des noms d'artistes, hein, c'est ça.
Oui, puis Kevin, okay. Kevin là, c'est E-U-N-E à la fin.
Ah, j'aurais mis deux N aussi, c'est bon.
Salut!
Salut!
Mathieu Thomasin, chroniqueur auto qui était avec nous. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. On se reparle demain à la même heure. Merci d'avoir été là. Bye-bye.
Marceau, le soir.
Cet été, fais partie de quelque chose de solide avec Canam. Des projets d'envergure, une équipe fière et un avenir à bâtir. Postule maintenant au canamembauche.com.
Le 13 août, vivez une journée 100% hockey avec l'expérience Pro-Am Sun Life. Une journée entièrement au profit des enfants d'ici. Dès 15h, profitez du tailgate à la place Jean-Béliveau. À 17h, assistez au match des légendes. Puis à 19h, place aux vedettes de la LNH au centre Vidéotron. Billets en vente dès maintenant sur Ticketmaster.